Voici la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia. Bonjour monsieur le député, bonjour à tous. Je vous demanderai s'il vous plaît un petit peu d'attention. Ce ne sera pas très long, mais vraiment, ce serait bien si vous pouviez lâcher ne serait-ce que 10 minutes. Vos téléphones portables, Éric Delvaux. Oui, je sais, vous venez de recevoir un texto dont la lecture ne saurait souffrir quelques instants de plus. Oui, je sais, votre chat Facebook est en train de clignoter. Puis il y a cette vidéo sur Twitter, faut absolument la regarder. Et allez voir aussi ce qui se passe sur Instagram. Quelles sont donc les nouvelles photos publiées depuis 24 heures? C'est Lorraine de Fouché qui, dans Le Monde, dresse la liste des applications qui font que nous avons de plus en plus de mal à rester concentrés. Notamment les plus jeunes, les adolescents, dont certains sont devenus totalement accros aux écrans. Et elle a rencontré Emma, une lycéenne de 15 ans qui lui a expliqué les sigles sur son appareil. Emma lui a montré les flammes qui apparaissent sur Snapchat à chacun de ses échanges avec sa copine Anna. Anna et moi, dit-elle, on est vraiment très proches. Regarde, ça fait 150 jours non-stop qu'on est en contact tous les jours. 150 flammes avec Anna. Et pas question que ça s'arrête là, Anna lui en voudrait, c'est sérieux, l'amitié. Et Emma de préciser, si je n'échange pas avec Anna pendant près de 24 heures, il y a un sablier qui s'affiche à côté de son nom sur mon téléphone. Un sablier qui me rappelle le challenge dans lequel on est. Et leur challenge, c'est donc d'entretenir les flammes. D'ailleurs, dans son lycée, le nombre de flammes est devenu le nouveau baromètre de l'intégration sociale. Je connais un mec en seconde B, il a des flammes avec personne, c'est vraiment la honte, dit-elle. Si ce que raconte Emma nous intéresse, c'est non seulement parce qu'elle raconte ce qu'est la jeunesse aujourd'hui, mais aussi parce qu'elle dit à quel point nos machines et surtout les géants des nouvelles technologies ont réussi ces derniers temps à capter de plus en plus de notre temps de cerveau disponible, temps si cher à l'ancien patron de TF1, Patrick Lelay. Si ce que raconte Emma nous intéresse, c'est parce qu'elle met en lumière la surpuissance d'Apple, de Google, de Facebook, lesquels, avec donc leurs formidables applications qui ne cessent de nous interrompre, participe à la baisse de notre niveau d'attention. Les enseignants s'en aperçoivent. Aujourd'hui, au bout de 10 minutes, les élèves lâchent, explique dans le journal un prof d'histoire géo. Ce que confirment aussi les dernières études sur le sujet. En 2000, en moyenne, nous étions capables de rester concentrés 12 secondes sur une même tâche. Déjà pas très glorieux, mais désormais c'est encore pire. Le score s'établit à 8 secondes, un taux en dessous de celui du poisson rouge. Et notre attention baisse, même devant la télé, devant les guignols notamment.
Oui, et les guignols, c'était pourtant l'un des programmes phares de Canal+.
Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, des guignols ne restent que le nom. C'est le titre du papier que signe Benoît d'Aragon dans Le Parisien. Une critique sévère, extrêmement sévère, d'une émission qui n'a vraiment plus rien de satirique, semble-t-il. Ils ont raté la campagne électorale, plus personne ne les regarde, mais hélas, c'est logique. Tant les sketchs sont désespérants, se désole un ancien de la chaîne. Visiblement, les nouveaux auteurs choisis par Vincent Bolloré cherchent surtout à ne jamais faire de vagues. Résultat, ils ne font plus mouche et sont à côté de la plaque ou de très mauvais goût, comme avec cette séquence nommée l'élection de Miss Migrante 2018. Un sosie de Jean-Pierre Foucault y présentait des candidates venant du Kosovo, d'Érythrée, de Syrie et défilant, je cite, avec une robe du couturier Emmaüs, un humour déplacé de la vie de mon confrère, et il met des guillemets autour du mot humour. Du reste, même la direction de Canal+ reconnaît le naufrage et elle a exigé de rapides ajustements. Aujourd'hui, le programme réunit à peine 200 000 téléspectateurs. Il y a 3 ans, ils étaient 1 800 000. Les guignols ont perdu la flamme.
Et hier, Frédéric, à Paris, combien étaient-ils dans les rues pour dire leur refus des ordonnances réformant le Code du travail?
Eh bien, comme toujours, il y a des accords sur les chiffres. La police a compté 30 000 personnes, les organisateurs 5 fois plus, du coup pour ne vexer personne. Les comptes rendus restent assez flous et parlent de plusieurs dizaines de milliers de participants. La bataille commence, à lancer Mélenchon. Et la citation fait la une du courrier Picard. Mélenchon continue le combat dans la rue, commente la dépêche du Midi, tandis que la presse de la Manche évoque un Mélenchon entré en résistance. La France insoumise vent debout contre Macron. Résume pour sa part Centre Presse, et de fait c'est bien au président de la République que s'adressaient hier la plupart des slogans. Comme l'écrit Arthur Nazaret dans le journal du dimanche, l'insoumis en chef s'est installé dans un tête-à-tête avec le chef de l'État, se piquant de lui répondre point par point. Macron a déclaré que la démocratie ce n'était pas la rue. Réponse de Mélenchon, c'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis, c'est la rue qui a protégé la République contre les généraux félons, c'est la rue qui a obtenu le retrait du CPE, des raccourcis historiques qui ont au fait d'ulcérer la majorité comme les réseaux sociaux. Et bien sûr, c'est surtout la référence aux nazis qui a ulcéré. Indigne, a commenté le porte-parole du gouvernement sur Twitter. Puis Manuel Valls a dégainé. Pas de complaisance à l'égard de Mélenchon, de sa violence et de ses références historiques hasardeuses et de fait. Comme le rappelle Avad Jashidi dans Le Parisien, ce n'est pas une manifestation, non, qui a chassé les nazis de la France. Mais les efforts déployés par les forces françaises de l'intérieur en 1945, après le débarquement des Alliés, d'ailleurs selon le JDD, quand Éric Coquerel, l'un des proches de Mélenchon, a pris conscience du mauvais buzz provoqué par cette saillie, il était, nous dit-on, consterné. Et sans doute le sera-t-il également en lisant l'interview que Bruno Le Maire donne à l'hebdomadaire.
Oui, à la une, il y a une grande photo de Bruno Le Maire, et ce titre, nous avançons.
Autrement dit, c'est bien. Si les gens manifestent, que chacun s'exprime, assure-t-il, c'est naturel en démocratie. Mais il ajoute d'emblée que le texte de la réforme du Code du travail ne changera pas. Les manifestations ne serviront donc à rien. Et le JDD de préciser, malgré cette offensive de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est désormais persuadé d'avoir gagné la partie sur le Code du travail. Du reste, dès le mois d'août, nous dit-on, il avait confié à ses proches son intuition. Il n'y aura pas de mouvement social de grande ampleur. À l'Élysée, à Matignon, mais aussi à Bercy, on donne donc l'impression d'être déjà passé à autre chose. En l'occurrence, à la préparation du budget, et c'est de cela que parle avant tout le ministre de l'économie. Son rôle, dit-il, c'est de pousser le plus loin possible la transformation économique de la France, et ce, en assumant une stratégie de rupture, c'est-à-dire créer des richesses avant de les distribuer. Et puis il annonce également qu'il a désormais adhéré au parti La République En Marche. Il n'a donc plus sa carte au parti Les Républicains. Voilà, j'espère avoir réussi à garder votre attention. S'il vous en reste un peu, allez lire par exemple dans Le Progrès un reportage très intéressant sur des viticulteurs qui mettent du jazz dans leur cuve. La vinification avec des ondes musicales. Il paraît que le vin est bien meilleur, ou du moins extrêmement musical. Sur ce, il faut que je vous laisse, je dois aller entretenir mes flammes.
Oui, et 12 secondes de concentration, du vin et de la musique dans cette revue de presse. Merci Frédéric Pommier.